Ici à Paris, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge.
Merci Stéphanie, il est 7h10 à Cheyenne, dans le Wyoming. Le Wyoming où les Républicains se choisissent aujourd'hui leur candidat pour le siège de représentant en vue des élections de mi-mandat de novembre. La sortante Liz Cheney pourrait bien payer le prix de son opposition à Donald Trump. On sera aussi au Brésil aujourd'hui, coup d'envoi ce mardi de la campagne présidentielle. Le racisme envers les autochtones au Mexique, ça c'est notre dossier du jour et ce sera juste avant de vous retrouver Benoît Ferrand pour le journal de la première. La vaccination contre la monkeypox a débuté en Guadeloupe.
La vaccination qui comporte deux doses contre la variole du singe, deux doses administrées théoriquement à un mois d'intervalle, sauf en Guadeloupe, où le rappel, nous dira Pascal Pétrine tout à l'heure, ne sera possible qu'à partir du 15 octobre prochain.
On en parle dans une quinzaine de minutes ensemble, Benoît. Merci et bienvenue à tous. Après la perquisition ultra-médiatisée du FBI la semaine dernière chez lui en Floride, après les révélations de la commission sur l'attaque du Capitole, quelle influence Donald Trump garde-t-il sur sa famille politique? Pour le savoir, c'est donc du côté du Wyoming que l'on se tourne ce mardi, l'état rural du centre du pays, où se tient aujourd'hui sans doute la plus suivie de toutes les primaires pour les élections de mi-mandat. Les républicains doivent désigner leur candidat pour le siège à la Chambre des représentants, un siège actuellement occupé par Liz Cheney, la vice-présidente de la commission du 6 janvier, qui est devenue la bête noire des Trumpistes. Elle pourrait bien essuyer donc une lourde défaite aujourd'hui face à celle que Donald Trump a décidé de soutenir. Sur les routes du Wyoming, Guillaume Nodin a suivi les derniers jours de campagne.
Good times and great oldies. 1480 K-Rap.
Pour arriver à Casper, il faut passer Cheyenne, la capitale administrative au sud, et rouler un peu plus de deux heures vers le nord à travers la grande prairie de l'ouest américain. À l'arrivée dans cette ville riche de ses ressources pétrolières, difficile de manquer le panneau « Ditch Liz », littéralement « Mettez Liz dans le fossé ». Ce jour-là, les amateurs de voitures de la région sont rassemblés sur le parking d'un centre commercial. Joe, la soixantaine passée, expose fièrement son pick-up Ford de 1955 bleu. Ce mardi, pour lui, ce sera un vote sanction.
Oh, je vais voter contre Liz Cheney. Elle n'a pas fait grand-chose pour nous. Elle a d'autres idées que la plupart des gens ici au Wyoming, donc j'en suis là. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas bien pour nous. Si elle était vraiment pour nous, elle resterait là au lieu de partir. Si j'avais su, je n'aurais pas voté pour elle au départ. Je l'ai fait parce qu'elle était républicaine. Mais souvent, ça ne veut pas dire grand-chose.
À l'époque du vice-président Dick Cheney, le père, et jusqu'à l'élection de sa fille en 2016, le nom de Cheney et le parti républicain du Wyoming étaient quasiment synonymes. Mais depuis, bien qu'elle ait voté comme les autres républicains dans plus de 90% des cas à la Chambre, Liz Cheney est devenue la figure de proue de l'opposition interne à l'ancien président Trump en consacrant l'essentiel de son temps à son rôle dans la commission du 6 janvier. Cela lui vaut d'avoir été démise de toutes ses responsabilités dans le parti et d'être accusée de trahison. Mais Suzanne Stopson, membre du Parti républicain à Casper, fait tout de même partie du comité de soutien à Liz Cheney.
Je pense que ce sera un problème au moment du vote, et c'est certainement ce que l'on entend dans la rue. D'un autre côté, Liz Cheney fait valoir que oui, elle est impliquée dans les auditions de la commission du 6 janvier et que cela la tient éloignée de l'État, mais c'est un travail important à faire. Expliquer qu'il faut défendre l'état de droit et que ça l'éloigne du Wyoming, c'est quelque chose d'important à faire. C'est plus important que le parti. Je ne reconnais pas du tout mon parti, c'est triste. Souvent, je trouve que certains de mes amis et collègues dans le parti sont presque méconnaissables en raison de certaines de leurs prises de position. Donc c'est un terrible moment de division.
De fait, Liz Cheney, sauf pour quelques événements fermés au public, sans doute aussi pour des raisons de sécurité, est pratiquement absente de la campagne de terrain. Elle se déroule d'ailleurs surtout à coups de publicité à la télévision et sur les réseaux sociaux. À une exception notable, fin mai, Donald Trump a fait le déplacement à Casper pour soutenir sa candidate Harriet Tubman. Il faut dire qu'entre lui et Liz Cheney, tout cela est devenu personnel.
Les gens du Wyoming vont voter pour dégager la fausse républicaine Liz Cheney du Congrès. Elle est devenue folle. Wyoming, toute l'Amérique compte sur vous. C'est tellement important. Je pense que c'est notre élection la plus importante. Ici, parce qu'ils veulent la gagner, parce qu'ils veulent faire mal à Trump. Ils veulent faire mal à Trump. C'est tout ce qui les intéresse.
Les tout derniers sondages donnent une très large avance à Harriet Tubman face à Liz Cheney. Le verdict des urnes, c'est ce mardi, après quoi le Cowboy State, comme il se surnomme, pourra retrouver sa tranquillité et retourner à sa passion du rodéo. Guillaume Nodin, de retour du Wyoming, RFI.
Et bien sûr, on suivra les résultats donc de cette primaire républicaine demain dans notre rendez-vous, l'actualité électorale qui nous amène à présent au Brésil.
RFI, as vozes do mundo.
Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Cap sur cette présidentielle brésilienne. Le premier tour, ce sera le 2 octobre prochain et la campagne officielle débute aujourd'hui.
Oui, les deux principaux candidats dans la course au Palácio do Planalto, le président Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula, ont choisi des lieux symboliques pour le premier jour de la campagne électorale, écrit au Globo. Bolsonaro se rend à Juiz de Fora, où il a subi une agression au couteau en 2018, et il doit prononcer un discours à l'endroit même où il a été frappé. Objectif, selon ses alliés, raviver l'effervescence qui a marqué la course électorale cette année-là et qui l'a conduit à la victoire. Le candidat de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, a de son côté choisi une usine de São Bernardo do Campo, dans la région ABC Paulista, son berceau politique. Il a aussi prévu des mobilisations de rue avec des marches et des drapeaux dans tous les États. Sachant que selon un sondage en une du site G1, 77% des personnes interrogées affirment avoir déjà choisi leur candidat.
Justement, que nous disent les derniers sondages, Christophe, maintenant à moins de 2 mois de la présidentielle?
Lula accroît son avance sur Bolsonaro, titre Odia, 45% contre 34% pour l'ancien président. Le sondage publié par G1 place lui Lula à 44% et Bolsonaro à 32%. En cas de second tour, 51% pour Lula et 35% pour Bolsonaro. Jamais auparavant, un président n'avait concouru pour sa réélection dans une situation aussi défavorable, s'exclame au Globo. Mais le journal note que le gouvernement va maintenant profiter du moment le plus favorable de l'année. Une inflation négative au cours des 3 mois précédant le vote, un PIB en hausse grâce aux mesures de relance et un chômage en baisse. Même si, estime le journal, il s'agit d'un environnement créé artificiellement.
Bolsonaro et Lula, qui pourraient bien se rencontrer en fin de journée, Christophe.
Ils ont été tous les deux invités à la prise de fonction du ministre Alexandre de Moraes comme président du tribunal supérieur électoral. Moraes qui devient donc une figure centrale pour l'élection de 2022, écrit Folha de São Paulo. Moraes connu, rappelle au Globo, pour sa posture combative et ferme dans la conduite des enquêtes du tribunal suprême qui accable le camp Bolsonaro.
Et évidemment, on n'a pas fini là non plus de reparler de cette élection brésilienne. Pour l'heure, direction le Nicaragua, Christophe, où a été arrêté le prêtre Oscar Benavides, curé de la paroisse d'Espiritu Santo. Et là, la presse en parle, bien sûr.
Et la prensa reproduit le communiqué du diocèse de Ciuna. Nous ignorons la cause et les motivations de son arrestation. Nous attendons des explications des autorités. Le quotidien précise quand même que ces 2 dernières semaines, le pays a vécu une escalade répressive contre l'Église catholique, avec la police qui, depuis le 4 août, bloque l'évêché de Matagalpa dans le nord, empêchant de sortir l'évêque Rolando Alvarez, ainsi qu'une dizaine de prêtres et de laïcs. L'évêque représente une des dernières voix prophétiques de l'Église catholique que la dictature du président Daniel Ortega n'a jamais pu intimider ou coopter, écrit Confidencial. Le régime l'accuse de promouvoir la violence et la haine quand tout le monde sait que tout ce qu'il a fait, c'est prêcher l'espérance et la paix. Et le journal de se féliciter d'une condamnation générale dans le pays de la répression contre l'Église. Une condamnation qui ne peut rester silencieuse, estime le journal, au vu du danger que court l'évêque. Rappelons que les relations entre l'Église catholique et le gouvernement de Daniel Ortega sont tendues depuis 2018, quand des manifestants qui réclamaient la démission du président ont trouvé refuge dans des églises.
Record-breaking temperatures scorching the nation from coast to coast. We called on our experts for tips on staying safe and staying cool.
C'était il y a quelques jours sur la chaîne américaine ABC. On s'interroge sur comment vivre avec une chaleur extrême. Beat the heat, littéralement combattre la chaleur. Et Christophe, mieux vaut se poser la question dès maintenant, car paraît-il que dans 30 ans, une ceinture d'extrême chaleur recouvrira le centre des États-Unis.
C'est en tout cas ce que prévoit l'étude d'une organisation à but non lucratif, First Street Foundation, reprise par le Washington Post. Le centre des États-Unis n'est pas connu pour subir les chaleurs de l'été, explique le journal. Mais selon la First Street Foundation, des dizaines de millions de personnes vivant dans cette zone pourraient voir certaines températures grimper au-delà des 51 degrés, du nord du Texas à la Louisiane, à l'Illinois et l'Indiana. Située entre les Appalaches et les montagnes rocheuses, cette région forme une sorte de bol qui canalise l'humidité, ce qui augmente les températures. Le spécialiste Jaime González estime dans le journal que cette étude donne un aperçu de ce qui va se passer si l'on n'agit pas davantage.
Du futur, on retourne dans le passé. Sur l'écran de la DeLorean, on tape l'année 1973.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National.
Nous sommes à la cérémonie des Oscars. Marlon Brando reçoit la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain, mais c'est une jeune indienne, on l'entend, Sasheen Littlefeather, qui s'avance sur scène et explique que Brando ne peut pas recevoir son prix en raison de la manière dont sont traités les Amérindiens par l'industrie du cinéma. Applaudissements et huées. Eh bien, 50 ans après, Christophe, l'Académie des Oscars présente ses excuses pour ses huées à Sasheen Littlefeather.
Nous, les Indiens, sommes des gens très patients. Cela ne fait que 50 ans, a réagi Sasheen Littlefeather dans un communiqué repris par le site Deadline. Celle qui fête ses 75 ans avait, vous l'avez dit, été huée, mais aussi insultée. Et elle raconte que l'acteur John Wayne voulait même monter sur scène pour la frapper, rappelle le Hollywood Reporter. Dans sa lettre, l'Académie écrit que l'actrice, qui avait jusque-là tourné dans quelques films, a ensuite été professionnellement boycottée et discriminée pendant 50 ans et présente ses excuses les plus sincères pour ce qu'elle a subi. Le texte avait été envoyé en juin dernier, mais il a été révélé ce lundi par l'Académie des Oscars pour annoncer un événement consacré à Sasheen Littlefeather qui aura lieu le 17 septembre au musée de l'Académie.
Christophe Paget, merci. Et voilà qui nous conduit presque sans transition à notre prochain sujet, direction le Mexique.
RFI.
Pour parler du racisme à l'égard des communautés autochtones, un sujet longtemps tabou remis sur la table aujourd'hui après un sordide fait divers. C'est l'histoire de Juan, un adolescent de 14 ans, agressé dans son école de Querétaro au nord de Mexico et brûlé au troisième degré parce qu'il parlait une langue indigène, Justine Fontaine.
En juin et juillet dernier, l'histoire de Juan a fait le tour des médias mexicains, comme ici sur la chaîne Milenio. À Querétaro, un jeune de 14 ans a été aspergé d'alcool et a subi des brûlures de la part de deux de ses camarades d'école. Il ne parle pas bien espagnol, il parle otomi, ce qui lui valait d'être harcelé. Juan est sorti de l'hôpital le mois dernier, mais il est toujours traumatisé par l'agression qu'il a subie, explique sa famille. Pour Alexandra Haas, directrice de l'ONG Oxfam au Mexique, ce cas montre bien comment les stéréotypes racistes mènent à des violences physiques graves.
Au Mexique, les personnes indigènes sont victimes de préjugés. Par exemple, la dernière enquête nationale sur la discrimination a montré qu'une personne interrogée sur trois pense que les indigènes sont pauvres à cause de leur culture. Le racisme se manifeste donc par ces idées reçues concernant les indigènes. Mais il va jusqu'à des discriminations concrètes et aboutit finalement à des actes de violence comme celui que l'on voit ici. C'est l'expression la plus dure des discriminations contre les indigènes au Mexique.
Dans un rapport publié en 2019, Oxfam soulignait par exemple que la probabilité d'accéder aux classes sociales supérieures au Mexique était près de 70% plus faible pour les femmes indigènes que pour les femmes blanches.
Claudia Olivia Morales Reza.
Claudia Morales Reza, qui se présente au téléphone en parlant dans sa langue natale, est la première femme indigène nommée présidente du Conseil national contre la discrimination au Mexique. Elle fait partie du peuple Wirarica et vient du centre-ouest du pays. Dès l'école, elle a été poussée à renoncer à une partie de sa culture.
Je viens d'un village indigène et quand j'ai dû aller au collège pour continuer à étudier, on ne me laissait pas parler ma langue. J'étais obligée de parler espagnol et cela va à l'encontre du respect des différentes identités.
Sa nomination à la tête du Conseil national contre la discrimination ne suffit pas, dit-elle, à compenser le manque de représentation des indigènes dans les institutions publiques. Mais elle intervient alors que depuis quelques années, une nouvelle génération d'activistes et de figures du monde de la culture essaye de rendre plus visible le racisme dans le pays. En 2018, le film Roma, du réalisateur Alfonso Cuarón, montrait le quotidien d'une employée de maison indigène dans le Mexique des années 1970. La révélation du film s'appelle Yalitza Aparicio. Membre du peuple mixtèque, elle est nommée dans la foulée pour l'Oscar de la meilleure actrice, mais tout de suite aussi elle subit du harcèlement raciste en ligne ou de la part d'autres acteurs mexicains. Depuis, elle prend régulièrement la parole pour défendre les droits des indigènes, en particulier les femmes. Dans le même temps, de jeunes militants se réapproprient des mots autrefois utilisés pour dénigrer les indigènes et les afro-descendants.
L'actrice mexicana Mabel Cadena y los actores Tenoch Huerta.
Abby Chris est un étudiant transgenre du sud du Mexique. Il publie des vidéos sur Instagram contre le racisme et pour les droits de la communauté LGBT+. Et il se décrit lui-même comme Prieto.
Le mot prieto s'utilise généralement de manière péjorative. C'est un terme raciste, mais aussi une forme de mépris de classe, de mépris social. Cela veut dire que les personnes à la peau foncée vaudraient moins que les autres. Alors j'ai décidé, comme beaucoup d'autres personnes ici, de m'approprier ce mot. J'ai décidé de me nommer ainsi et de dire, eh bien oui, je suis prieto et j'existe, je résiste même.
Un mot utilisé aussi par le comédien mexicain Tenoch Huerta. C'était l'un des acteurs principaux de la série Narcos Mexico. Il sera aussi à l'affiche du deuxième volet du film de Marvel, Black Panther, qui doit sortir cette année.
Et les agresseurs du jeune Juan, hein, dont on parlait, donc, qui a permis de remettre ce sujet tabou du racisme envers les communautés indigènes au Mexique. Ces agresseurs présumés devraient en principe être jugés le mois prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est bien sûr avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
On parle de la campagne de vaccination contre le monkeypox, la variole du singe. Cette campagne a commencé en Guadeloupe.
La Guadeloupe, où plusieurs cas de la maladie ont d'ores et déjà été recensés, la vaccination, qui a débuté le mois dernier, comporte deux doses, théoriquement administrées à un mois d'intervalle, sauf apparemment en Guadeloupe, où le rappel ne sera possible qu'à partir du 15 octobre. D'où la question, le stock de vaccins est-il suffisant ? Pascal Pétrine.
Deux centres de vaccination ont ouvert leurs portes, l'un aux Abîmes, l'autre à Saint-Martin. Nous avons appelé celui des Abîmes. Notre interlocuteur au bout du fil nous a précisé que la vaccination n'était possible que sur rendez-vous, après avoir répondu à un questionnaire très précis. L'objectif étant de gérer au mieux le stock de doses existantes.
Ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'on est obligé de demander ça déjà par rapport aux doses. La deuxième dose, ça sera à partir du mois d'octobre.
15 octobre, soit au-delà du délai d'un mois préconisé par le schéma vaccinal normal. Pour l'heure, la pression vaccinale reste supportable selon notre interlocuteur.
Jusqu'à maintenant, on a eu une trentaine de personnes.
Contacté par nos soins, l'ARS rappelle par communiqué que l'état des stocks des vaccins est une donnée classée secret défense et elle confirme que, je cite, « la situation ne présente pas de difficultés en termes de stock et que la demande est satisfaisante ». Dès lors, nous sommes en droit de nous demander pourquoi le délai de 28 jours préconisé entre les deux doses pour un schéma normal a-t-il été allongé.
On change totalement de sujet, direction la Martinique et la traditionnelle course du 15 août à Sainte-Marie, course de chevaux qui se déroule sur la plage. C'est une exclusivité locale. Reportage Jean-Baptiste Anatole.
On a eu l'impression hier que toute la Martinique s'était donné rendez-vous à Sainte-Marie. Une foule impressionnante, digne d'une arrivée du Tour d'Eyol, s'est retrouvée sur la plage de cette commune pour applaudir les chevaux. Entre 8 et 10 courses étaient au programme. Cela variait entre les puissants, les demi-puissants, les poneys et les mulets.
Un beau spectacle. La tradition un peu de Sainte-Marie.
Sainte-Marie est la seule commune à la Martinique où ce type de course de chevaux existe. Une manifestation que la ville souhaite voir acquérir ses lettres de noblesse dans notre collectivité. Patrick Milvin, président de l'association Les Sabots dans le Sable et organisateur de la course.
Il faut que les politiques viennent voir cet événement, viennent sous le sable pour découvrir cet événement que nous avons à Sainte-Marie. C'est une richesse.
À cause du temps, le terrain était lourd, l'embouchure de la rivière s'était creusée, mais malgré cela, tous les chevaux ont assuré le spectacle.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce rendez-vous d'Haïti des Amériques. Hélène Avril était à la réalisation. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition. Et vous le savez, en attendant, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur notre application RFI Pure Radio. L'actualité des Amériques à commenter aussi sur notre compte Twitter, @RFI Amérique. Très bonne journée à tous et à demain. Cool.